Hubert Blanchard, vous êtes réalisateur, vous enseignez également l'analyse filmique et vous intervenez cette année dans le cadre du festival Courts-Métranges. Vous avez assuré une masterclass scénario samedi dernier dans le cadre de la Journée étrange et vous présentez demain la conférence Poltergeist ou l'écran fantomatique, un regard croisé entre cinéma et philosophie avec Kevin Capelli sur la persistance de la figure du fantôme dans notre imaginaire. Bonjour à vous.
Bonjour.
Le fantôme, hantise du passé et cinéma de l'invisible, c'est le thème de l'édition 2019 du festival de courts-métrages fantastiques, étranges et insolites courts-métranges. Le fantôme, c'est une figure qui hante les récits humains depuis des siècles et qui se retrouve assez largement dans le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. En quoi le cinéma est-il un bon support pour questionner notre rapport à la mort et aux esprits, Hubert Blanchard ?
Déjà, le cinéma, je pense que c'est un support pour tout un tas de questions. Alors, il n'y a pas de raison que les fantômes passent au travers. Et puis, le cinéma, c'est l'art spectral par définition. Hein. Au théâtre, les comédiens sont sur scène. Au cinéma, ce sont des fantômes qu'il y a sur l'écran, puisque les gens, quand le film passe, ils ne sont plus là. Il y en a même certains qui sont déjà morts. Donc, le cinéma, par nature, c'est l'art fantomatique. C'était presque... D'ailleurs, c'est depuis les débuts du cinéma, le cinéma s'est intéressé aux fantômes, à l'occulte, à l'étrange. Ça fait partie des thèmes récurrents au cinéma.
Donc en fait, par opposition au spectacle vivant, le cinéma, ce serait le spectacle non vivant, peut-être ?
Oui, en quelque sorte, c'est un spectacle pas mort pour autant, parce que c'est un mort vivant. Les tout débuts de la photographie, quand les gens se faisaient prendre en photo, déjà, ils ne voulaient pas se faire prendre en photo, puis certaines personnes étaient persuadées qu'on leur volait leur âme. Hein. Alors, ça, c'est quelque chose... Il y a une part de nous qui s'en va quand on fait une photo. Et forcément, où est la vérité ? Est-ce qu'elle est sur la photo ? Ou est-ce qu'elle est... C'est celle qui est restée, on n'en sait rien, on va dire.
Sans compter tous les montages qu'on peut faire.
Bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, bon, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais puisque vous posiez la question sur le fantôme au cinéma, déjà, il faut définir ce que c'est qu'un fantôme. Le fantôme tel qu'on l'a imaginé pendant des années, qu'on l'imagine encore d'ailleurs, une espèce d'ectoplasme qui passe à travers les portes et les murs, c'est un peu restreint comme vision, mais tout ce qui fait référence à la mort, après la vie, au-delà, au surnaturel, tout ça, pour moi, ce sont les fantômes. D'ailleurs, on en parlera sans doute aussi de ça, mais dans Poltergeist, ce ne sont pas des fantômes tels qu'on les imagine régulièrement, de façon classique.
Donc il y a plusieurs formes que peuvent prendre ces fantômes dans le cinéma.
Oui, bien sûr. Par exemple, les zombies sont des fantômes. Même plus loin, tous les personnages qui ont une espèce de double vie, de double existence, toutes les schizophrénies, je ne sais pas, par exemple dans Shining ou dans Psychose, ça fait appel aussi aux fantômes. C'est pour ça peut-être effectivement que les gens étaient persuadés qu'on les volait, parce qu'on a nos propres fantômes à l'intérieur de nous-mêmes, quoi.
Alors justement, le fantôme, c'est un objet particulier parce que quand il est représenté, il est souvent invisible, on le voit rarement frontalement. Quand on parle de n'importe quelle forme de fantôme d'ailleurs, on ne fait que le deviner au fur et à mesure du film. Comment est-ce qu'on met en scène le fantôme au cinéma ? Comment est-ce qu'on peut montrer ce qui n'existe pas par définition ?
On montre beaucoup de choses qui n'existent pas au cinéma. Ça va peut-être plutôt faire référence à une autre conférence que j'ai faite la semaine dernière, c'était sur le hors-champ. Mais il faut savoir qu'au cinéma, une grande partie de l'histoire se passe en dehors du champ de la caméra, c'est-à-dire elle se passe complètement dans l'esprit du spectateur. Le spectateur fait le film dans sa tête, alors évidemment... ça facilite sacrément le travail, puisque le réalisateur n'a pas besoin de matérialiser les fantômes. Le spectateur se les fabrique lui-même dans son esprit. et ça coûte moins cher en effets spéciaux. Et puis c'est beaucoup plus efficace. Hein. S'imaginer le fantôme, c'est beaucoup plus effrayant que de le voir. Quand on va voir un film, après je répondrai à votre question un peu plus directement, mais quand on va voir un film, qu'on s'imagine un monstre, qu'on s'imagine un fantôme, on est terrorisé. Puis une fois qu'on l'a vu, on se dit, bon, ça va, il n'est pas si effrayant que ça. Quand il faut le matérialiser, ben on le matérialise sous diverses formes. Ça peut être sous la forme d'une espèce d'ectoplasme, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être sous la forme d'un zombie, ça peut être sous la forme d'un personnage. Il y a un sixième sens, par exemple. Le personnage du fantôme fait tout le film, il n'y a qu'à la fin qu'on sait que c'est un fantôme. Mais sinon, oui, après, bon, dans Poltergeist, on les imagine plus qu'on les visualise. On les visualise un peu à la fin sous la forme de zombies, mais...
Ça prend quelle forme dans Poltergeist, justement ?
Bien, en fait, ça... C'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec le cinéma art spectral, la télévision aussi. Et en fait, dans Poltergeist, là où c'est très intéressant, particulièrement intéressant, c'est que les fantômes se manifestent à travers la télévision. Et pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire lorsque la télévision s'arrête de diffuser, il y a les parasites qui remplissent l'écran, et en fait ce sont des fantômes. Et il y a un personnage dans Poltergeist qui est la petite fille, qui elle, entre en contact avec les fantômes, et pas les autres personnes de la famille.
Alors justement, cette image de la télévision, c'est un peu particulier, parce qu'on s'imagine les fantômes, ça existe depuis des siècles dans les récits humains. Pourquoi l'avoir représenté pas au travers de la télévision, comme si c'était l'imaginaire moderne qui s'emparait de la figure du fantôme, en fait ?
Oui, alors là, en plus, moi, ce que je trouve intéressant dans Poltergeist, on en parlera demain soir, mais c'est que la télévision, c'est à la fois un symbole de la modernisation, parce que c'est presque has-been la télévision, mais c'est aussi un symbole de je sais pas, enfin dans le film c'est une télévision poubelle, on y retrouve tout quoi, et dans la poubelle on retrouve tout ce qu'on veut jeter, tout ce qu'on jette volontairement et tout ce qu'on refuse de voir, et particulièrement les fantômes. Puisque dans Poltergeist, les fantômes apparaissent parce que, bon, c'est comme dans tous les films du genre, les maisons ont été construites sur des cimetières, etc., etc. Et donc, on a rejeté les morts, on les a ignorés, et ils se manifestent à travers cette télévision poubelle dans laquelle on balance tout, quoi. Donc, il y a une double critique, plus que double, mais au moins celle-là, dans Poltergeist, c'est-à-dire que à la fois il y a une critique de la télévision poubelle dans laquelle on trouve tout, on balance tout, et c'est une télévision visiblement que le réalisateur et le producteur n'ont pour laquelle ils n'ont vraiment pas de sympathie, et en plus on retrouve cette société qui a rejeté ses morts, qui a refusé de... Puisqu'elle a ils ont déménagé le cimetière pour pouvoir faire un lotissement. Mais bon, ils ont déménagé à la va-vite. Et puis, il y a certains morts qui sont restés. Enfin, voilà. Donc, c'est tout ce qu'on... C'est ça aussi le fantôme. C'est-à-dire que c'est tout ce que l'on refuse de voir, tout notre passé, tout ce qu'on met sous le tapis, en gros, quoi. Et ça nous revient en pleine face un jour ou l'autre.
Vous pensez que c'est pour ça qu'on a besoin toujours de fantômes actuellement représentés dans le cinéma pour un peu renouer avec nos imaginaires, avec tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes ?
Oui, certainement, parce que les fantômes, c'est une partie de nous-mêmes. Donc si on a une personne extérieure qui vient nous faire des leçons de morale, nous dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, on lui dit bon t'es gentil mais je fais ce que je veux. Si c'est un fantôme qui vient nous dire ça, on ne sait pas qui c'est ce fantôme. Ça peut être une partie de soi-même, ça peut être nos lointains ancêtres, nos proches qui viennent nous tirer les orteils pendant qu'on est en train de rien. Mais non, il ne faut pas faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si on faisait des... Enfin, on en fait encore des films de fantômes, mais peut-être que les fantômes viendraient nous voir en nous disant « Mais attendez, les gars, va peut-être falloir faire attention à la planète parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. » Vous voyez, c'est le même principe, quoi.
Le cinéma est un art fantasmagorique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, car il travaille sur l'imaginaire des gens, en fait, sur leurs propres fantasmes, sur les spectateurs.
Le cinéma nous donne à voir tout un tas de choses, mais il nous laisse surtout à imaginer plus encore. Et on imagine en fonction de sa propre culture, de sa propre vie. C'est pour ça que moi je dis toujours aux enseignants, je fais des cours avec je fais des formations pour les futurs ou les actuels enseignants, leur disant, moi, si j'étais à votre place, je ferais au moins une fois par semaine une analyse de ce que les enfants ont vu à la télévision, au cinéma dans la semaine, parce que y a des choses qui peuvent nous paraître complètement anodines, et puis pour des enfants, parce qu'ils ont un vécu qui n'est pas le même, parce qu'ils ont un background qui n'est pas le même, ils le perçoivent différemment et ça peut les traumatiser.
Et chacun projette quelque chose de différent, au final, dans ses figures fantomatiques.
Bien sûr. Y a des choses qui peuvent effrayer certaines personnes et pas d'autres. Hein. C'est en fonction de votre passé, de votre vie, de vos histoires familiales.
Cette année, le festival Court-Métrage proposait un long métrage, Ghost Story, de David Lowery, dans lequel le fantôme apparaît sous la forme cliché du grand drap blanc qui est percé de trous noirs pour les yeux qui lui donnent un air triste. C'est pas un fantôme malveillant ici, ni terrifiant, les personnages ne le voient pas. Est-ce que le fantôme peut aussi être un moyen pour le cinéma, comme ici, d'aborder des thématiques de la perte, de l'amour, des souvenirs?
Oui, bien sûr, puisque... le fantôme, c'est l'étymologie de fantôme, c'est la même que fantasmagorie, fantasme. Enfin, c'est l'illusion, quoi. Donc, les illusions, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est tout ce qu'on se construit, tout ce qu'on se fabrique. Et c'est aussi la perte de choses, d'objets, de personnes qui nous ont été chères. Alors, on a l'illusion de les entendre toujours, de les voir toujours, ou de continuer à vivre à leur côté. Mais voilà, c'est ça. Dans l'étymologie, il y a presque la réponse à la question « Est-ce que les fantômes existent ?» Puisque c'est une illusion, on va dire bah « Non, si c'est une illusion, ça n'existe pas. » Mais bon, les illusions, on se fabrique les illusions. Donc si on les fabrique, c'est qu'elles existent, on les concrétise. Quoi.
Et pour créer cette illusion, justement, dans le cinéma, on met en scène le fantôme d'une certaine façon. Vous avez parlé de Pottergeist. Est-ce qu'il y a d'autres façons de mettre en scène ce fantôme?
Oui, mais je vous ai aussi parlé de Sixième Sens, où là, le personnage était réel. Et puis, bon, il y a les zombies, il y a les personnages qui... je vous parlais des schizophrènes, comme dans Shining. Le personnage qui est joué par Nicholson, qui est parfois le père, et puis qui parfois devient un cinglé... Est-ce que c'est son fantôme qui reprend le dessus? Puisque même à la fin du film, je spoil, mais bon, tant pis pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, c'est dramatique de ne pas l'avoir vu. Mais à la fin du film, bon, il y a une image, on voit une image de Nicholson, on se demande qui c'est. Donc peut-être que c'était le premier personnage et que celui qu'on a revu la deuxième fois, c'était le fantôme. On ne donne pas forcément d'explications, c'est aussi pour ça. Quoi. On n'a pas besoin de... Le cinéma fantastique n'est pas souvent très didactique. On ne va pas chercher le spectateur par la main en lui disant « Attention, là, je vais te montrer un fantôme, là, je t'explique. » Ce qui fait aussi que le film est intéressant, c'est que la part d'imaginaire est énorme. Et plus l'imaginaire est énorme, plus on va rester suspendu à la fin du film et on n'en sortira jamais, en définitive. Donc, le fantôme, on nous en livre une partie, puis on nous laisse la possibilité de l'imaginer soi-même.
Dans le cinéma, on a l'image, mais on a la particularité aussi d'avoir le son qui s'accompagne. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut mettre en scène le fantôme avec du son au cinéma? Est-ce qu'il y a tout un travail à penser sur le bruitage, sur les... Comment on met ça en scène?
C'est pareil, quoi. Tout dépend du fantôme auquel on a affaire, parce qu'il n'existe pas un fantôme, enfin une représentation du fantôme. Et Effectivement, c'est tout l'enjeu du cinéma. Le cinéma, moi, c'est souvent ce que j'explique à mes étudiants. Je leur dis, en fait, on écrit un scénario sous la dictée de l'image. Donc, il faut mettre en image le réalisateur, le scénariste a des images dans la tête. Il faut qu'il les couche sur le papier. Donc, il faut qu'il trouve les mots pour restituer l'image. Et ensuite, il faut transformer les mots en image. Donc, réfléchir en image. Et c'est tout l'enjeu, en image, en son. Comment est-ce qu'on va matérialiser un fantôme, un esprit ? Eh bien, en filmant un personnage disparu, en le faisant parler. Puis il y a des bruits. Par exemple, dans Poltergeist, au moment des parasites, quand la petite fille est devant sa télévision et que c'est après à la fin des programmes, il y a des parasites sur l'écran. Et puis on entend une espèce de voix. Je pense que le son a été enregistré et puis passé à l'envers. Un peu comme dans Shining, le petit qui dit Red Rum, Red Rum, Red Rum pour dire murder en fait. Et on a l'impression que ça a été mis à l'envers, puis remis à l'endroit. Donc ça donne une espèce de voix assez bizarre sortie des profondeurs de la Terre ou de je ne sais où. Mais effectivement, on a tout un tas d'artifices pour donner une espèce de sensation d'étrangeté au son et à la voix.
Et le cinéma de l'étrange, il offre une grande liberté pour un réalisateur justement en termes de création ?
Le cinéma en général. Après, si on veut rester dans l'étrange, on pourrait considérer qu'on est aussi dans un carcan. Il faut absolument que ce soit étrange. Mais oui, bien sûr, il y a la seule limite au cinéma, les seules contraintes qu'on rencontre, c'est d'abord les contraintes financières quand on fait un film, puis les contraintes matérielles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, et tout le travail du réalisateur, c'est de faire en sorte de rendre possible, de matérialiser son imaginaire avec les moyens dont il dispose. Mais les moyens sont de plus en plus illimités, mais restent quand même restreints, puisque je vous dis, ça coûte cher, et puis, ça donne quand même une liberté assez, assez importante.
Merci Hubert Blanchard. Je le rappelle, vous êtes réalisateur et enseignez l'analyse filmique. Demain soir, dans le cadre du festival Court-Métrange, vous présenterez la conférence Poltergeist ou l'écran fantomatique, un regard croisé entre cinéma et philosophie avec Kevin Capelli sur la persistance de la figure du fantôme dans notre imaginaire contemporain. C'est demain soir à 18h30 à la Maison internationale de Rennes. C'est entrée libre et ça promet d'être passionnant.
Merci.